J'aimerais vous partager en Hébreux 10, 25, pendant la louange qui était excellente. Merci à Elodie, Pasteur Peter et toute l'équipe. Et j'ai reçu quelque chose dans mon esprit parce que vous savez qu'il y aura une grande marche républicaine aujourd'hui à Paris et que beaucoup de chefs et responsables de l'Europe occidentale vont se réunir à Paris. Mais Hébreux 10, 25, nous qui sommes l'Église, c'est le temps de s'attacher au corps de Christ. Et ça, je l'ai reçu très fortement dans mon esprit pendant la louange. Ce n'est pas le temps de prendre du recul. Ce n'est pas le temps d'être détaché du corps de Christ. Ce n'est pas le temps d'être détaché de son assemblée. C'est le temps de se souder, de rester ensemble, de rester unis et d'avancer. Et regardez ce que dit ce verset. N'abandonnons pas notre assemblée. Cette année, il ne faut pas abandonner notre assemblée. Pourquoi ? Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour s'approche. Les attentats, les faits qui arrivent en ce moment sont des faits qui nous montrent que la fin approche, que le retour de Jésus approche. Donc pour l'Église, ce n'est pas le moment de prendre du recul, c'est le moment de s'unifier et d'avancer et d'être le sel et la lumière du monde et de prêcher cet évangile et pour que les musulmans puissent apprendre cet évangile, pour que le peuple juif puisse se réconcilier avec son Messie, c'est l'heure. Et on ne peut pas être une Église qui dort cette année parce que ça commence à venir dans notre pays maintenant. Donc on ne peut pas rester moribond, on ne peut pas rester par terre. Il faut vraiment qu'on se lève dans la puissance de l'Esprit, dans la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Je vais vous partager de sortir de la servitude pour rentrer dans le service. Les œuvres, ce n'est pas un mot péjoratif. Œuvrer pour le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas bon. Œuvrer pour le Seigneur, c'est quelque chose de bon. Œuvrer pour le Seigneur, c'est quelque chose que chaque enfant de Dieu devrait avoir le privilège de le faire. Et ce n'est pas un acte de servitude, c'est un acte de service. C'est un acte d'honneur de pouvoir servir l'Éternel, l'Alpha et l'Oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Et c'est ça que j'aimerais vous montrer. J'aimerais lier les deux thèmes. Parce que l'année dernière, nous avons beaucoup parlé de la liberté. Et cette année, le pasteur a reçu de la part de Dieu de rentrer dans le service. « Ah, mais moi, je croyais que j'étais dans la liberté et maintenant, on me demande de servir. » J'aimerais vous montrer que ça va dans la même direction. Que servir le Seigneur avec joie, ça va dans la même direction qu'être libre dans le Seigneur. Ce n'est pas un acte de servitude. Ce n'est pas une chape de plomb qu'on essaye de poser sur vous. C'est rentrer dans la joie de Dieu et de servir son Dieu. Et c'est pour ça que j'ai intitulé « De la servitude au service ». Et vous voyez que quand Dieu a donné ce thème à Pasteur John, c'est, vous voyez que Dieu ne donne pas une direction et une direction totalement opposée. Dieu n'est pas schizophrénique. Si votre vie va dans toutes les directions, Dieu m'a dit ci et le lendemain, ah ben en fait il m'a dit l'opposé, je vais douter de votre capacité à écouter le Seigneur. L'Éternel dit qu'il a tout fait pour un but. Dieu est un Dieu cohérent. Dieu est un Dieu qui construit. Dieu est un Dieu qui met pierre après pierre. Et ce thème de l'année dernière s'imbrique parfaitement dans et a été parfaitement la préparation pour ce nouveau thème. Et regardons, j'ai rajouté les panneaux de l'année dernière ici. Galates chapitre 5, verset 1, nous dit quoi ? Si je mets mes notes dans le bon sens, ça va aider. Donc je vais lier le thème de la liberté de l'année dernière avec ce nouveau thème qui est « Libre ». De servir le Seigneur avec joie ou servir le Seigneur avec joie. Ouais, libre de servir le Seigneur avec joie, c'est pas mal aussi. Galates 5, 1 que vous voyez ici nous dit quoi ? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors le mot servitude, ce n'est pas un mot très agréable. Vous êtes d'accord avec moi ? Si je vous dis servitude, vous allez me dire les notions suivantes. Esclavage, contrainte. Obligation, je suis privé d'une certaine liberté. Donc Paul amène un concept de liberté et après il dit ne vous laissez pas à nouveau vous mettre sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas à nouveau vous mettre sous la contrainte, sous l'obligation ou d'être privé de liberté. Il dit que vous êtes libre de la servitude, mais au verset 13, il parle toujours de liberté, mais il va amener une notion de service. Galates 5, 13 nous dit « Frère, vous avez été appelé à la liberté ». À nouveau le thème de la liberté qu'il est en train d'enseigner. « Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Donc en Galates 5, 1, Paul parle de liberté et il dit « Pas de servitude quand on est dans la liberté ». Mais en Galates 5, 13, il parle de liberté et il dit « Il y a le service dans la liberté ». Gring, 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 gring. Pourquoi ? Parce que pour certains chrétiens, le fait de servir, s'ils ont toujours une mentalité de servitude, ils vont croire que c'est de l'esclavage. Donc nous devons sortir la mentalité d'esclavage et comprendre qu'un homme libre, comme Paul l'était, il décide. Il ne le fait pas par contrainte, il ne le fait pas par peine, il décide de servir et il décide de le faire avec joie. Donc on voit ici que Paul, il est en train d'associer deux choses. Il est en train de faire une différence claire entre la servitude et le service. Ici, il parle de servitude, ici, il parle de service, les deux notions en lien avec la liberté. Il dit, il associe la servitude à l'esclavage. Il associe la servitude à l'esclavage, et je l'ai mis en rouge ici. Par opposition, où il associe le service à la liberté. Il dit qu'un homme libre, c'est un homme qui devrait se mettre au service des autres. Alors que celui qui a une mentalité d'esclave, il va croire que c'est de la servitude. Mais pendant une année, nous allons parler du fait que nous sommes libres. Donc se mettre au service, ce n'est pas un acte de servitude, c'est un acte de service. Que fait un homme libre? Donc deux choses ici. Un esclave est dans la servitude, vous êtes d'accord? Il n'a pas le choix. Il est contraint de le faire. Il est obligé de le faire. Et il est dans la peine de le faire. Mais un homme libre, il n'est pas dans la servitude, il est dans le service. Et qu'est-ce qui fait un homme libre? Il a la conviction. Même s'il pleut un dimanche à Nice et qu'il est de service, il va venir servir parce qu'il a la conviction. Ce n'est pas en fonction des circonstances, comme nous a dit Elodie, c'est par conviction dans ses tripes. Et un homme qui libre, qui est dans le service, il le fait par choix. Il ne le fait pas parce que son pasteur le demande. Il ne le fait pas parce que son employeur le demande, mais il le fait parce qu'il a choisi de le faire dans son cœur. Vous voulez percer professionnellement? Servez votre employeur. Vous voulez que votre business grandisse en tant qu'employeur? Servez vos employés. Quand vous choisissez de le faire et de le faire avec joie, il va y avoir une attitude qui va commencer à changer. Vous savez que si j'étais un employeur et qu'ils avaient le choix entre deux personnes, une a les aptitudes et l'autre a l'attitude. Si je vais choisir la personne qui a la meilleure aptitude, même si elle n'a pas les meilleures aptitudes. Parce que quelqu'un qui a une bonne attitude, tu vas pouvoir la former avec ses aptitudes. Mais une personne qui a les aptitudes et qui ne veut rien savoir dans son attitude, vous ne pouvez pas la changer. Donc si vous arrivez avec cette notion de service, pas de servitude, mais comme un choix, comme quelque chose que vous avez décidé dans votre cœur, cela va faire une différence. C'est pour ça que j'ai appelé ceci de la servitude au service. Mais moi, j'aime bien jouer avec les mots, avec la langue française. Je fais des études en lettres et sciences humaines. Donc j'aime jouer avec la langue. Servitude et service ont la même racine, mais deux connotations totalement différentes. Vous ne pouvez pas associer les deux. Et laissez-moi vous donner une histoire pour bien comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui. Et il y a une image qui va apparaître. Mon histoire se déroule pendant la période de l'esclavage aux États-Unis. Pendant 3 siècles, grosso modo de 1600 à la fin des années 1800, l'esclavage était légal aux États-Unis. Dans mon histoire, il y a un homme, un gentleman, bien habillé, avec un mouchoir dans son veston comme pasteur Peter, avec un chapeau haut comme pasteur Laura, et cet homme est en train de se balader dans une ville du sud des États-Unis. Tout d'un coup, cet homme arrive dans une ville du sud, et il voit une vente aux enchères d'esclaves. Un petit peu dans la configuration que je vous ai mise ici. Et il voit que des personnes sont en train d'être vendues en esclavage à d'autres. L'homme, gentleman, interpellé par la scène, voyant qu'il y a des gens qui arrivent sur l'estrade, enchaînés par les poignets, enchaînés autour de la nuque, ces personnes étaient sur le point d'être vendues comme une marchandise. Et l'homme, gentleman, s'interpelle et il se met derrière la foule et il voit ces hommes en spectacle, en train d'être vendu aux différents maîtres. Tout d'un coup, une femme apparaît sur l'estrade. Il y avait une série d'hommes, mais tout d'un coup, une femme arrive. Le commissaire priseur annonce un prix. Il dit, cette femme que vous voyez ici, vous pouvez en être propriétaire pour la somme de un tel. L'homme gentleman dont je parle, au lieu d'accepter le prix qui a été donné, il dit, je double la mise depuis, vous voyez, il est bien derrière la foule, je double la mise pour cette femme. Je veux cette femme et je double la mise pour elle. Le commissaire priseur dit, adjugez monsieur, cette femme va être votre propriété dès à présent. Et vous savez qu'à l'époque, il fallait avoir des documents légaux pour pouvoir prétendre être le maître de quelqu'un. Lorsque ce gentleman arrive vers cette femme, par dégoût, lui crache au visage. Je te méprise, toi qui m'as acheté. Je te méprise, toi qui penses que je suis une marchandise. Je te méprise, toi qui penses qu'avec tes dollars, tu peux acheter une vie humaine. Le gentleman sort son mouchoir, enlève le crachat de la femme, garde sa dignité, prend la femme avec elle, va au bureau des transactions légales, fait la paperasse nécessaire, paye pour cette femme. Le commissaire-priseur dit, cette femme vous appartient. Et là, la femme se dit, ma vie est foutue. Mais ta-ta-ta-ta, coup du tonnerre, le monsieur, le gentleman en question, au lieu de garder ce qu'on appelait le certificat de manumission, il donne ce certificat, ça c'est une feuille sur le baptême du Saint-Esprit, donc, donne ce certificat de manumission à la femme qu'il a acheté. Et il lui dit, madame, avec ce certificat dans les mains, vous pouvez aller partout sur le territoire américain et personne ne pourra faire de vous une esclave. J'ai acheté votre liberté. Et là, la femme perplexe, vous avez acheté ma liberté? Elle commence à être émue. Vous avez acheté ma liberté? Elle dit oui, ça vous appartient. Vous avez acheté ma liberté? Votre liberté vous appartient, madame. La femme esclave s'effondre sur ses genoux et commence à pleurer. Il a acheté ma liberté. Je suis libre. La femme, alors que le gentleman lui donne son certificat de manumission, il part, toujours digne. La femme l'interpelle. Monsieur, étant donné que vous avez acheté ma liberté, je vais vous servir toute ma vie. Quelle est la morale de cette histoire? La morale de cette histoire, c'est que cette femme, à la base, elle aurait dû servir cet homme sur un acte ou une base de servitude, de contrainte, de peine, d'obligation. Mais vu que cet homme a acheté sa liberté, elle avait le choix soit de le servir, soit de prendre sa liberté. Elle a pris la décision. Je vais vous servir, monsieur le gentleman, jusqu'à la fin de mes jours, parce que vous avez payé pour ma liberté. Elle ne l'a plus fait, elle ne l'a plus servi dans une mentalité de servitude, mais elle l'a servi dans une mentalité de femme libre qui peut partir tant qu'elle veut, mais elle a décidé dans son cœur que cet homme valait la peine d'être servi, plus dans une mentalité de servitude, mais dans une mentalité de service. Une femme libre qui sert son maître. Mais quel est le lien avec nous? Là, tu nous racontes une histoire, l'esclavage aux États-Unis, c'est pas si loin que ça. Ça a cessé il y a 150 ans à peu près. Mais nous, qui sommes chrétiens, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre que servir Dieu avec joie n'est pas un acte de servitude, c'est un acte de gratitude. Ce n'est pas quelque chose que Dieu essaie de nous mettre dessus. Le service, comme l'histoire de cette dame, elle le fait de son cœur, de l'abondance de son cœur. Elle est reconnaissante. Je ne sers pas Dieu pour obtenir son approbation. Je sers Dieu parce que j'ai obtenu son approbation. Je ne sers pas Dieu pour obtenir son amour. Je sers Dieu parce que j'ai déjà obtenu son amour. Et il y a des gens qui rentrent et après ils disent « Ouais, mais je suis en train de faire des œuvres » parce qu'ils essayent d'obtenir l'amour de Dieu. Ils essayent d'obtenir l'approbation de Dieu. L'amour de Dieu ne changera pas. Il ne t'aimera pas plus parce que tu le sers ou parce que tu ne le sers pas. Parce que son amour, il est agapé, il est inconditionnel. Il n'y a aucune condition à l'amour de Dieu. Ne sers pas Dieu pour obtenir son amour. Sers-le parce que tu as obtenu son amour. Sers-le parce qu'il t'a sorti de l'esclavage. Tu ne peux pas obtenir le salut par tes œuvres, mais tu es sauvé pour de bonnes œuvres. Les œuvres n'ont rien à voir dans le fait que tu es sauvé. Tu n'as pas besoin de tuer des gens pour être sauvé, comme certains le croient. Tu n'es pas sauvé par ce que tu fais. Tu es sauvé par ce que lui il a fait et tu l'acceptes par la foi. Mais une fois que tu as accepté ce qu'il a fait par son œuvre, tu es content de le servir et de faire quelque chose pour lui. Ou Pasteur John dirait, je ne sers pas ou je ne travaille pas pour Dieu, je travaille avec Dieu. Participant, c'était beau cette parole, participant avec Dieu, être collaborateur avec Dieu, collaborer avec Dieu, être avec lui pour que les gens soient sauvés, être avec lui pour que les gens soient délivrés. Ah, c'est ça le service. Et tant que vous essayez de servir pour obtenir quelque chose, au lieu de servir parce que vous avez obtenu quelque chose, vous allez être dans la frustration. Paul le dit comme ça en 1 Corinthiens 6, verset 20. car vous avez été rachetés à un grand prix. Par quel prix, dites-moi? Oui, plus précisément. Merci Régine. Nous avons été rachetés par le sang précieux de l'agneau. Pierre nous explique que Thiago, l'or n'avait pas assez de valeur pour te racheter à Dieu. L'argent n'avait pas assez de valeur pour te racheter à Dieu. Seul le sang de l'agneau pouvait racheter Thiago et le ramener à Dieu. Et quand vous comprenez ça, vous n'essayez pas de trouver votre valeur dans vos habits. Vous n'essayez pas de trouver votre valeur dans votre situation sociale. Vous n'essayez pas de trouver votre valeur dans votre pédigré familial. Vous trouvez votre valeur dans le sang de l'agneau par lequel vous avez été racheté. Parce que l'or n'était pas assez cher pour vous racheter. L'argent n'était pas assez cher pour vous racheter. Seul le sang précieux de l'agneau était assez cher pour nous racheter. Quand tu trouves ta valeur dans le sang, tu as trouvé ta vraie identité, ta vraie valeur. Oh, ma valeur, elle est dans le sang. Nous avons été rachetés à un grand prix. Racheter, ça veut dire quoi? Vient du mot rédemption, qui veut dire qu'on a été délivré de l'esclavage ou de la servitude parce qu'une rançon a été payée. La vie de Jésus a été payée pour nous. Il est celui qui a payé la rançon pour nous. Donc, je ne vais pas le servir par servitude. Il est le gentleman qui a payé ma liberté. Et maintenant, je rentre dans son service par reconnaissance. Par reconnaissance. Pas par approbation, pas pour faire plaisir à maman, pas pour faire plaisir à mon voisin, simplement par reconnaissance. Ouh ! Et après, il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il n'y a pas seulement notre esprit qui appartient à Dieu, il y a aussi notre corps. Donc on rend un culte à Dieu par la prière, par l'adoration, par la louange, mais je rends aussi un culte à Dieu par ce que je fais. Et ces œuvres sont bonnes. Ce ne sont pas de mauvaises œuvres de œuvrer pour le Seigneur. Tournez, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, dans Philémon. Bonne chance à trouver, il n'y a qu'une page. Pour ceux qui ont une Bible seconde, ça sera la page 911 pour vous aider. Mais il n'y a qu'une page. Pour bien comprendre le transfert entre mon histoire et ce que nous vivons aujourd'hui. Philémon 1, et nous allons lire versets 10 et 11. Je te prie pour mon enfant, en parlant d'Onésime, que j'ai engendré dans les chiennes, Onésime, cette fois il est là, qui autrefois t'a été inutile en parlant à son maître. Donc, Philémon était le maître de Onésime. Qui t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Vous savez quoi? Avant, nous étions inutiles au Seigneur. Nous n'avions aucune pensée pour lui. Nous étions esclaves de nos péchés. Nous ne pouvions pas l'aider à construire son royaume. Nous étions comme cet esclave ici, Onésime. Nous étions inutiles. Mais Onésime veut dire utile. Et maintenant, par le fait que nous avons été rachetés par le sang de Jésus, nous sommes passés de inutile à utile pour le royaume de Dieu. Ha! Je vais essayer de me calmer. Vous voyez que quand je sers, non mais Philippe, moi je suis un croyant du Nouveau Testament. Moi je suis sous la grâce, je ne suis plus sous la loi. N'essaye pas de mettre sur moi le service ou la servitude ou quoi que ce soit qui commence par S. Moi, je fais ce que je veux, etc. Je suis qui je veux, je suis un électron libre, je ne veux pas m'attacher au corps de Christ. Faites ce que vous voulez. Le choix vous appartient. Mais moi, je vous dis une chose. C'est que quand tu comprends la grâce de Dieu, Paul dit que c'est par la grâce de Dieu qu'il a été fait ministre de l'Évangile ou serviteur. Ministre veut dire serviteur. La grâce de Dieu a fait de Paul un serviteur pour l'Évangile, un collaborateur pour l'Évangile, un participant pour l'Évangile. C'est la grâce de Dieu qui l'a fait. Donc vous ne pouvez pas venir avec une doctrine ou une théologie de loi ou dire que parce que vous êtes sur la grâce, ah non, alors je ne sers pas. Parce que vous êtes encore dans la mentalité de servitude. Pas dans la mentalité d'un homme qui a été racheté par le sang précieux de l'agneau et qui sert son Seigneur par reconnaissance. Mais quand vous servez par reconnaissance, vous allez servir avec joie. Mais quand vous servez par obligation, vous allez être frustré. Ah, le pasteur, il me demande encore de passer à l'église. Oh là là, puis mon responsable, il me saoule. Ça fait la troisième fois qu'il m'appelle. Oh, puis ma femme, j'ai plus envie de la servir. Oh là là, elle m'a agacé cette semaine. Oh, puis mon patron. Oh, si je pouvais y tordre le cou. Mais vous voyez que ce que je suis en train de partager, ce n'est pas seulement pour l'église. C'est une mentalité. Alors, vous savez que quand on retrouve une vérité biblique dans la bouche de Dieu, dans la bouche de Jésus et dans la bouche de Paul, je ne sais pas vous, mais moi, je l'applique. Par exemple, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dieu l'a dit, Genèse chapitre 2. Jésus l'a dit, Matthieu chapitre 19. Paul l'a dit, Éphésiens chapitre 5. Résultat, je suis marié aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Cette idée que j'essaye de vous transmettre aujourd'hui, d'être sorti de la servitude pour servir, Dieu l'a dit. Jésus l'a dit. Paul l'a dit. Donc regardons ce que Dieu a dit. Regardez en Exode 7. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes utile pour le royaume de Dieu? Est-ce que ça s'est ancré dans votre cœur? On va lire Exode 7, on va lire quelques versets là, de 14 à 16. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Donc on comprend bien ici que c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Donc Moïse va parler au nom de l'Éternel à Pharaon. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Vous savez que l'Égypte dans la parole de Dieu, pasteur Peter l'avait mentionné, l'Égypte dans la parole de Dieu est appelée la maison de la servitude. Donc Dieu est en train de dire, je vais sortir mon peuple de la maison de la servitude, mais pourquoi faire? La fin du verset nous le dit. Laisse aller mon peuple, Pharaon. Laisse aller mon peuple, laisse-le sortir de la servitude. Laisse-le sortir de la maison de la servitude. Mais pourquoi faire? Afin que. Vous connaissez la grammaire française? Afin que, conjonction de but. Donc, afin que veut dire pour un but, pour un objectif. Non, je vous ai dit que j'aime bien la langue française. Afin que. Laisse aller mon peuple, pourquoi? Afin qu'il me serve dans le désert. Dieu est en train de changer la mentalité de son peuple. Il dit, tu vas sortir de la servitude et tu vas rentrer dans le service de ton Dieu. Ouh. Vous dites, oui, mais ça, c'est un verset. Lisez Exode 7 jusqu'à Exode 10. Ce même verset apparaît 6 fois. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et vous savez ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont fait ça? Non, ils n'ont pas du tout fait ça. Lorsque Moïse était en train de recevoir les commandements de Dieu, le peuple était en bas avec Aaron, ils ont récolté tout l'or. Après Aaron, il a dit à Moïse, ah ben on a jeté l'or dans le feu. Et tout d'un coup, le veau d'or est apparu. Moïse descend de la montagne, voit un veau d'or. Répondez à cette question, d'où vient le veau d'or? Oui, le veau d'or vient d'Égypte. Le veau d'or vient d'une mentalité de servitude non renouvelée par la parole de Dieu. Et quand vous allez dire à un chrétien de rentrer dans le service parce qu'il n'a pas encore renouvelé son intelligence avec la parole de Dieu, il va te dire non, 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 ne me mets pas sous le joug de la servitude. Non, non, surtout pas, parce qu'il n'a pas encore renouvelé son intelligence. L'Égypte est encore dans sa mentalité et il n'entre pas dans le service parce que pour lui, c'est quelque chose que tu vas lui imposer. Et il crée un veau d'or qui vient de la servitude, qui vient de la mentalité de la servitude. Mais vous voyez que Dieu a sorti son peuple de la servitude pour qu'il le serve. Donc servir, c'est quelque chose qu'on fait en tant que quelqu'un qui a été affranchi. Alors on a vu la bouche de Dieu. Regardons la bouche de Jésus. Vous savez quoi? Vous pouvez tomber dans deux extrêmes en tant qu'homme libre. Soit en tant qu'homme libre, vous ne faites rien, vous ne servez pas. Ou soit en tant qu'homme libre, tu vas commencer, au lieu de servir, tu vas commencer à asservir. Au lieu de servir, tu vas commencer à asservir. Tu vas vouloir essayer de dominer. Tu vas vouloir essayer de tyranniser. Parce qu'à présent, toi, tu es libre. Donc maintenant, je vais asservir les autres. Je ne vais pas les servir, je vais les asservir. Ah, moi, je ne suis plus pécheur, je suis la justice de Dieu. Mais toi, tu es pécheur. Bzzz. Ouais, mais ça, c'est asservir. Si tu rencontres un pécheur, il faut lui annoncer Jésus. Alors, Matthieu 20. Donc, de la servitude au service. Deux mots proches, deux notions qui se calquent presque, mais totalement différentes. Matthieu 20, qu'est-ce que Jésus va enseigner? Il va dire que si tu es mon disciple, tu vas servir les autres et tu ne vas pas les asservir. Si tu es disciple, tu vas servir les autres et tu ne vas pas les asservir. Oui, nous sommes libres. Oui, nous avons été rachetés. Non, nous ne retournons pas sous le joug de la servitude. Oui, nous sommes dans le service, mais pas dans l'asservissement. Regardez ce que Jésus enseigne. Alors, au verset 20 de Matthieu 20, la mère des fils de Zébédée, comprenez par là la mère de Jacques et de Jean. La mère va vouloir promouvoir ses fils. Ça vous dit quelque chose? La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, Jacques et Jean, que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Elle est mignonne, la maman. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe? Comprenez par ici, pouvez-vous boire le sacrifice que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, attention, quand Jésus dit, c'est suivi de deux points dans la Bible, ça veut dire que c'est une citation directe et que c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Jésus est en train de donner la mentalité du monde. Les grands de ce monde, les chefs de ce monde sont dans la tyrannie et dans l'asservissement. Vous n'avez pas été libéré pour faire ça. Là, c'est moi qui extrapole. Mais j'ai été libéré pourquoi? Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Vous êtes mes disciples, vous prétendez me suivre, il n'en sera pas de même parmi vous. Vous ne serez pas en train d'asservir les autres. Vous ne serez pas en train de tyranniser les autres. Vous serez en train de les servir comme moi je vous ai servi. Parce que moi je suis le Christ, je suis venu pas pour être servi, mais pour servir les autres. Et si nous avons reçu l'Esprit de Christ à la nouvelle naissance, Romains 8, 9, à ce moment-là, je dois développer la ce que mon maître fait, servir les autres. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. J'ai besoin d'un volontaire. Rachel. Je vais imaginer ce que Jésus dit. Mentalité du monde. Rachel, moi je suis libre. Toi tu es esclave. Regarde comme je vais bien t'abaisser bien bas. Voilà. Et pour que tu restes bien bas. Hein, pour que moi je puisse monter bien haut. Regarde, on est collègues, n'est-ce pas? Mais je vais vraiment te casser du sucre sur le dos pour que moi j'ai la promotion, etc. Et je m'appuie et je fais l'ascenseur sur toi. Mais vous savez quoi? Selon la mentalité du monde, si j'essaye d'abaisser Rachel, je m'abaisse également. Mm-hmm. Mentalité du royaume, il n'en sera pas de même parmi vous, dit Jésus. Maintenant, je vais servir Rachel. Comme mon maître, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour te servir. Je vais t'aider à exceller dans ton métier. Je vais t'aider à exceller dans la louange. Je vais t'aider à exceller dans ce que Dieu t'appelle à faire. Viens, je t'aide. Monte sur l'estrade. Et quand j'aide Rachel à monter, je monte avec. Mentalité du royaume de Dieu. Merci beaucoup. C'est ce que Jésus enseigne ici. Qu'on n'est pas libéré pour asservir les autres. On n'est pas sorti de la servitude pour dire aux autres, ah, vous êtes dans la servitude maintenant. Je suis sorti de la servitude pour servir le Seigneur avec joie parce que je comprends que c'est le prix qu'il a payé pour ma vie. Et maintenant, en tant qu'homme libre, j'aimerais que d'autres soient libres également. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous voulez la clé de la promotion professionnelle? Vous voulez progresser professionnellement? Il dit ici qu'il soit votre serviteur. Si tu sers ton patron au lieu de travailler pour lui, ça va changer. Si tu es patron et tu sers tes employés au lieu juste de les payer, ça va changer ton business. parce que ton business ne va jamais décoller si tu n'élèves pas ceux qui sont autour de toi. Tu ne vas jamais pouvoir porter la croissance de ton entreprise si tu laisses les gens dans l'asservissement et dans l'ignorance. Impossible. Donc que tu sois employé ou employeur, la clé c'est sers tes employés. Et si tu es employeur ou employé, sers ton employeur. Mais ça fonctionne aussi dans le mariage. Est-ce que tu attends d'être servi par ton épouse ? Un médecin m'a dit récemment, « Ce boulanger, votre femme doit être alitée. » Donc elle va bien, elle était là hier soir. Et le médecin, il fait, « Monsieur Boulanger, il faut tout faire. » Ben oui, je suis en train de servir mon épouse. Mais je sais qu'elle va me rendre la balle tôt ou tard. Réciprocité. Servir dans son couple, servir ses enfants, servir au travail, servir son église, servir sa communauté, c'est la clé de la promotion. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et là, on retrouve cette idée de rançon, cette idée de paiement qu'il a écrit pour nous. Dernier texte. Juste pour être très concret avec ce que je dis. Imaginez, vous êtes un chanteur reconnu. Non, vous êtes un chanteur amateur. Votre star préférée, Johnny Hallyday, fait un concert au Palais Nikaya. Et toi, tu essayes de percer dans la chanson. Johnny Hallyday, grâce à ton réseau étendu, te propose de faire la première partie de son concert. Est-ce que tu vas dire, « Oh, quelle servitude !» Non, non, il essaye. Johnny essaye encore de m'exploiter. Je vais devoir jouer de la guitare pendant plusieurs heures. Je vais devoir répéter son nouveau CD, etc. Oh non, c'est vraiment terrible. Hein. Pour vous qui voulez percer dans la musique, Johnny vous donne son estrade. C'est terrible, n'est-ce pas? Tu vas vraiment être dans la servitude. Tu as vraiment l'impression que Johnny, il est en train de te piéger et que tu vas vraiment être dans une chemise de force comme ça et poings liés. Est-ce que tu penses que Johnny est en train de te piéger ou il est en train de te donner un privilège? Vous savez, pour moi, servir Dieu, ce n'est pas un piège, c'est un privilège. Et quand on m'a proposé, quand j'ai fini mes études bibliques à Réma, on m'a proposé d'enseigner dans les centres de formation biblique Réma et de rentrer dans le flot du ministère de Kenneth Hagin. Oh, est-ce que vous avez dit, non, vous allez, non, vous allez, je vais être un esclave pour vous. Non, non, je ne peux pas faire ça parce que vous allez essayer de m'exploiter, vous allez exploiter mes talents, etc. Oui, j'ai réagi comme ça. Rentrez dans le flot du ministère de Kenneth Hagin. Oh, un homme qui a apporté et qui a apporté la foi à un autre niveau. Un homme qui a marqué l'Église du XXe siècle. Non, non, on va m'exploiter. J'ai pris ça comme un honneur. Continuez ce que Dieu lui a dit, d'enseigner la foi à son peuple. Et moi, j'entre dans ce flot, dans ce ministère qui est en train d'impacter. Oh. Là, je vous ai donné un exemple avec Johnny Hallyday, je vous donne un exemple concret. Un honneur, un privilège. Je suis reconnaissant aujourd'hui de ça. Parce que par ce ministère, je suis en train d'aider ce ministère à avancer. Mais ce ministère est en train de m'aider à exploiter mon potentiel. Et vous voyez que c'est toujours donnant-donnant. Et vous savez quoi? Je voyage pas mal. L'année dernière, j'étais en Haïti, au Québec, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Italie, en Afrique du Sud. Et j'ai remarqué une chose, une corrélation. Les chrétiens qui ne servent pas ne découvrent presque jamais leurs dons. Le don, c'est un de mes sujets favoris. Et quand je rencontre des jeunes, ils disent « c'est quoi mon don ? C'est quoi mon don ?» J'y fais « Commence à servir. Commence à servir dans ton église locale. Commence à servir dans ton association culturelle. Commence à servir quelque part. Pas pour l'argent. Fais-le juste pour le plaisir de servir. » Et tu verras que quand tu commences à servir les autres, Dieu va commencer à te révéler tes dons. Parce que ton don n'est pas pour toi, il est pour servir les autres. Donc comment est-ce que tu vas le découvrir si ton don il est pour servir les autres, si tu ne sers pas les autres ? J'ai commencé à découvrir ce que Dieu avait mis en moi en servant les autres. Et qu'est-ce que dit Paul ici ? 1 Corinthiens 9. Ce C'est ce que Pierre enseigne. Il dit que par les diverses grâces de Dieu, nous avons tous, chacun, reçu un don. Et que ce don, à moins que vous soyez super narcissique, imaginez que vous avez un don pour la chanson. Vous vous douchez le matin, vous vous enregistrez, et quand vous allez au travail, vous mettez votre propre cassette. Ça va pas trop, hein. En général, les artistes, ils n'aiment pas écouter leur propre voix ou leur propre musique. Vous savez, c'est vrai que ce serait bien de le faire, mais je déteste écouter ma voix. Quand j'entends une prédication tournée sur l'ordinateur là, tout d'un coup, c'est moi qui parle. Je fais, arrêtez ça. Je déteste m'entendre. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous, hein, sinon vous allez m'envoyer des tomates. Mais vous voyez que le don que nous avons reçu, il n'est jamais pour nous-mêmes. Le don que nous avons reçu, il nous aide à trouver de la satisfaction et de sortir de la frustration. Voilà pourquoi tu détestes ton travail, parce que ton travail n'a aucune corrélation avec ton don. Et quand tu trouves ton don, ton travail est censé développer ton don. Et pour les plus jeunes d'entre vous, trouvez votre don avant votre formation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens partent dans une formation, mais ils n'ont jamais trouvé un don. Donc ils font 6 mois de Sciences Po, 6 mois de médecine, 6 mois de droit, je ne sais plus. Ton don, il vient de Dieu, pas de la formation que tu vas recevoir. Par contre, la formation que tu vas choisir, elle peut être dans la société, pas obligé d'être une formation chrétienne. Quel est le rôle de la formation? De sortir ou d'exploiter ou de polir le don que Dieu t'a donné. Mais on trouve ce don en se mettant au service des autres. 1 Corinthiens 9, il faut que j'avance. 9-19, et ça je pense que ça va être vraiment un verset qui lie vraiment l'année dernière avec cette année. Je pense que c'est un verset cher à Compassion en Action et un verset cher à Pasteur John aussi. Regardez Paul, il synthétise tout ce que je vous ai dit. Paul dit, il ne se considère plus comme quelqu'un qui est esclave, vous êtes d'accord? Parce que s'il enseigne sur la liberté, il doit avoir trouvé la liberté quelque part. Car bien que je sois libre, à l'égard de tous. En d'autres termes, je n'ai aucun compte à vous rendre. Je suis libre. Mais regardez, il dit, je me suis rendu. J'ai pris la décision. J'ai la conviction. J'ai dans mes tripes cette conviction que je dois servir. Je me suis rendu le serviteur de combien? De quelques-uns? Non, de tous. Dans quel but? Afin de gagner le plus grand nombre. Pourquoi servir son assemblée? Pourquoi servir son église locale? Si vous prenez un charter, il y a peut-être une personne qui va vous servir dans l'avion, parce que c'est un petit avion. Mais une fois que vous allez dans un Boeing, une personne, ça ne suffit plus. Je pense que Gérald, vous avez pris le A380. Ils ont pris le A380. Imaginez un seul membre du personnel pour servir tout l'A380. Je pense que même s'il y a 20 heures de vol, il va avoir du mal à servir tout le monde. Ça veut dire quoi, servir dans son église locale? Vous êtes libre si vous êtes en Christ. Mais décidez de servir les autres pour en gagner le plus grand nombre. Parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'être libérés. Vous, vous êtes libres, et c'est ma conclusion. Nous sommes libres. Tu peux prendre la décision de servir ou de ne pas servir. Mais Paul, il a pris la décision, il a dit, « Je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » En d'autres termes, je suis libre pour que d'autres personnes soient libres. Il faut arrêter d'avoir une foi égocentrique, de venir juste à l'église pour soi-même. On vient aussi pour que d'autres puissent connaître la bonne nouvelle. Et je connais des personnes qui sont frustrées dans leur vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas encore fait le passage. Ils pensent que l'église, c'est juste un endroit où tu viens recevoir, où tu viens être spectateur. Moi, je vous dis simplement, devenez acteur et votre foi va décoller. Devenez acteur et votre foi va décoller. J'avais fait une fois un message qui s'appelle « Servir pour mieux grandir ». Alors concrètement, si c'est votre assemblée, si vous êtes bien ici, si c'est votre famille spirituelle, si vous avez la conviction que Dieu, comme dit Corinthiens 12, vous a placé dans ce corps ici, que vous êtes bien, que vous avez envie de dire « c'est ici que j'appartiens, c'est ici que j'ai envie de collaborer », il y a 3 choses que j'aimerais vous communiquer. Toute simple. La semaine prochaine, si ce n'est pas le cas, vous avez l'occasion de rencontrer les pasteurs qui vont vous présenter l'Église, qui vont vous présenter un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment on peut s'engager, etc. Ensuite, vous avez l'occasion de suivre les fondements du croyant tous les dimanches à 9h. 10 cours de base. Peut-être vous êtes nouveau dans la foi, ça va vous construire. Peut-être vous êtes plus ancien dans la foi, ça va vous rafraîchir. Mais c'est un passage qu'on demande pour les personnes qui veulent s'engager. Comme ça, on sait que vous avez au moins ces bases et que vous les avez entendues au moins une fois. D'accord? Et comme ça, vous allez savoir ce que l'Église croit. Et comme dit Pasteur John, tout ce qui est annoncé ou enseigné correspond à ce qui est dans ce livre. Et enfin, vous avez l'occasion de devenir membre. La semaine prochaine, nous allons présenter de nouveaux membres. Donc, si c'est quelque chose que vous avez envie, parce que vous dites, ah ben ouais, je suis sorti de la servitude et je crois que je vais servir maintenant. Je crois que ça va me faire plaisir, je crois que j'en ai besoin, je crois que c'est quelque chose qui va faire décoller ma foi. À ce moment-là, vous savez quoi faire. D'accord ? Mais ce message va au-delà de notre assemblée, vous comprenez bien. C'est un message qu'on peut appliquer dans son couple, un message qu'on peut appliquer dans sa famille, dans son travail et dans sa communauté. Vous voulez vous lever ? J'aime bien terminer en priant pour sceller ce qui a été dit. Donc, si vous voulez bien prier avec moi. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Et nous te remercions parce que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix. Le prix du sang de l'agneau. Le prix du sang de Jésus, le précieux sang. Et on voit qu'à travers la bouche de Dieu, la bouche de Jésus et la bouche de Paul, tu nous appelles à sortir de la servitude pour entrer dans la dimension de service. Pas servir par légalisme, pas servir par activisme, mais servir le Seigneur avec joie. Parce qu'il le mérite, parce que c'est lui qui est venu me chercher, parce que la base de l'Évangile, ce n'est pas l'homme qui va à Dieu, c'est Dieu qui est venu à l'homme. Et le salut, j'aimerais que ça soit très clair dans l'Église. Certains pensent que c'est en tuant les autres qu'on va être sauvé. Est-ce que vous connaissez le salut biblique ? Nico, est-ce que tu peux mettre le dernier slide, s'il te plaît ? J'aimerais juste terminer avec ça. Peut-être que vous le savez pour vous-même, mais si quelqu'un vous pose la question, comment faire pour être sauvé ? J'espère que vous êtes équipé pour le faire. Parce qu'un croyant, il vient juste pour lui, mais un disciple, il va commencer à partager la bonne nouvelle avec les autres, et il va commencer à emmener les autres dans cette liberté. Est-ce que vous savez comment mener quelqu'un au Seigneur ? Est-ce que vous savez comment être sauvé bibliquement ? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut faire un attentat à Charlie Hebdo pour... Non, mais vous voyez à quel point on en est. La base de l'Évangile, c'est que Dieu est venu à l'homme. La simple chose que l'homme doit faire, c'est répondre à ce salut qui est déjà accompli. Il doit simplement dire oui à ce que Jésus a fait. Il n'y a rien que l'homme puisse faire pour obtenir ce salut. Il a déjà été obtenu et je dois simplement le saisir par la foi. La grâce, c'est que Dieu a fait tout le travail en Christ. La main de l'homme, la réponse de l'homme, je le reçois simplement par la foi. Et qu'est-ce que je dois faire ? Je crois simplement dans mon cœur, selon Romains 10, 9, 10, que le Seigneur Jésus est ressuscité. Et je le confesse de ma bouche. Pas besoin de traverser l'Atlantique à la nage. Pas besoin de monter l'Himalaya. Pas besoin de faire du mal autour de soi. Juste croire et confesser de sa bouche. Et je deviens une nouvelle création. Je veux que ça soit très très clair pour vous-même et ceux qui sont déjà sauvés. Vous avez le Saint-Esprit qui rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Mais si quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que dit la Bible pour être sauvé ? Tu peux lui dire, viens, on ouvre une Bible. Romains 10, versets 9 à 10. Et si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ, il est non seulement mort, Paul met l'emphase sur la résurrection. Hein, vous avez vu ? Le fait que Jésus est mort et ressuscité. Et que tu le crois dans ton cœur, et que tu le confesses de sa bouche, la Bible dit tu seras sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est tout. Mais alors mes œuvres n'ont rien à voir là-dedans ? Non. Mais une fois que tu es vraiment sauvé, il y a l'Esprit de Christ à l'intérieur de toi qui va te dire « J'ai besoin de servir comme mon maître. J'ai besoin de servir comme mon maître. J'ai besoin de faire maintenant de bonnes œuvres. Pas pour mon salut, mais parce que j'ai été sauvé. Ah. » Si vous avez compris ça, vous allez servir avec joie. Est-ce qu'on peut faire une prière ensemble, basée sur Romains 10, versets 9 et 10 ? On va le dire comme ça. Si je confesse de ma bouche, le Seigneur Jésus, et si je crois de mon cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dieu n'a jamais prévu que le salut soit compliqué. Ça a été dur pour Jésus. Lui a tout payé, mais c'est gratuit pour nous. Voilà l'Évangile que la France a besoin d'entendre. Voilà la bonne nouvelle que la France a besoin d'entendre.